Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Cinq sacs de vêtements pour des associations. Un plein de médicaments périmés. Un autre avec des épices frelatées, deux portables reconditionnés, un vase cassé et pas remplacé, un carton de vaisselle donné. Bref, j'ai rangé mon appart avec une immense satisfaction, comme si je me nettoyais aussi intérieurement. Alors, à un détail près, il y avait aussi les papiers, j'ai craqué, tout mis dans une caisse sans même regarder. Je classerai ça plus tard. Et puis, il y a le dossier livre. Un peu plus de 500 bouquins qu'il faut caser quelque part. Alors, j'ai pris sur moi, fait un premier tri pour en donner 280. Les autres sont encore un peu à l'étroit, mais ils sont là et je suis rassurée. J'aurais pu en donner 100 de plus, j'aurais même pu tous les donner, mais impossible. J'accumule, j'entasse, j'alimente mon bordel organisé et c'est très bien comme ça. Mais pourquoi cette manie d'accumuler des objets? Si nous rangions, trions, si nous consommions surtout autrement, et si on se dépouillait tout simplement? Et vous, quel est l'objet inutile dont vous n'arrivez pas à vous séparer?
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter. Trois invités ce matin qui vont nous aider à faire du tri dans nos têtes et dans nos placards. Bonjour Laurence Anfalt.
Bonjour Eva.
Vous êtes psychologue de formation et votre métier conseillère en organisation personnelle.
Oui.
Et on va s'apercevoir qu'on en a besoin. Avec nous également Julia Faure. Bonjour Julia.
Bonjour Eva.
Vous êtes cofondatrice de la marque de vêtements Loom et membre du mouvement En Mode Climat. Et notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonjour Valérie Guillard.
Bonjour Eva.
Vous êtes professeure des universités en marketing à Paris Dauphine, autrice de plusieurs livres dont Du gaspillage à la sobriété, Avoir moins et vivre mieux et Boulimie d'objets, l'être et l'avoir dans nos sociétés, deux livres publiés chez The Book Éditions. Nous avons demandé aux auditeurs quel est l'objet inutile dont ils ne parviennent pas à se débarrasser. Mais est-ce que vous arrivez à répondre à cette question, Laurence Anfalt?
Oui. Oui, hélas.
Mais dites-moi lequel, hein. Ne me dites pas oui, je peux vous répondre.
J'ai beaucoup trop de saladiers par rapport à ce dont j'ai besoin.
De saladiers?
Oui, je sais pas pourquoi.
Bon, mais ça, c'est un saladiers. Des objets qu'on peut accumuler, Julia Faure.
Moi, je crois que j'ai beaucoup d'objets inutiles, mais en particulier des vêtements, quoi. Je me souviens d'un pull que j'ai acheté il y a 5 ans, que j'ai jamais réussi à mettre, mais que j'arrive pas à donner parce qu'il est trop beau, quoi.
Je m'attendais à tout, Julia Faure, sauf à ce que vous me répétiez ça, à ce que vous me disiez des vêtements, sachant que, avec votre entreprise Loom, vous essayez quand même de nous faire comprendre qu'on peut ne pas accumuler des vêtements dans notre dressing.
Franchement, qui y arrive? Est-ce que vous connaissez une seule personne qui a pas de vêtements inutiles dans son dressing?
Vous allez dans une seconde nous dire ce que c'est exactement Loom. Mais Valérie Guillard, on a besoin de votre réponse. Quel est cet objet dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser? Inutile, hein, j'ai bien dit inutile.
Inutile. Alors je pense à plusieurs, comme Laurence et Julia. Et moi, je dirais, je pense notamment à une cisaille. parce que j'en ai plusieurs qui correspondent, qui ont exactement la même utilité. Et en fait, cette cisaille, en fait, elle est toute rouillée et je pense que voilà, elle est toujours dans un seau et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et je pense également à un vélo. Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment les deux.
Ah mais
deux
les vélos, mais les vélos
auxquels je pense.
Non mais un vélo, c'est pas inutile, sauf si il est vraiment tout rouillé, qu'il y a plus de roues et qu'il y a plus de selle. Mais a priori, non.
Oui, mais Eva, quand ce vélo, quand vous en faites, vous avez les genoux qui touchent le guidon, je commence à me dire que là, il est quand même un peu inutile, si vous voulez. Donc,
d'accord. Donc, voilà. Je suis d'accord avec vous, Valérie. On a donc posé la question aux auditeurs qui nous ont donné des réponses à peu près similaires aux vôtres, enfin presque, hein. Mais Claire nous dit, j'aimerais bien me débarrasser de mon téléphone portable, mais je le garde évidemment. Snoopette nous dit, certains livres paraissent inutiles, selon mon mari, parce que je les ai déjà lus et que je pourrais au fond les avoir sur la tablette, mais je les garde et j'ai 4 bibliothèques. Yanis nous parle de ses piles de journaux qui grossissent de jour en jour. Et Jérémy, lui, y garde tout, à commencer par ses premiers caleçons de grande marque qui sont complètement usés. Et même dans la collectivité pour laquelle il travaille, il n'arrive pas à jeter parce qu'il dit toujours « ça peut toujours servir ». Voilà l'expression, évidemment, que l'on répète à souhait. Qui dit rangement, Laurence Anfalt, dit aussi tri, dit aussi personne à tendance bordéliques. Alors, est-ce qu'on peut évacuer cette question ? Est-ce qu'il y a plusieurs types de personnes dites bordéliques, mais qui sont toujours sympathiques, si j'ai bien compris ce que vous dites dans votre livre ?
Oui, oui, il y a plusieurs espèces de bordéliques. Il y a d'abord ce que j'appelle les écureuils. Donc, comme les écureuils, ils ont plein de noisettes, ils mettent les noisettes dans les arbres, et après, ils ne savent plus où ils les ont mises. Vous avez des bordéliques sentimentaux. N'importe quel objet leur fait penser aux circonstances ou aux personnes. Donc évidemment, on ne peut pas s'en séparer.
Mais ça prouve qu'on a quand même un attachement émotionnel aux objets.
Énormément, oui. Ouais. Après, vous avez les bordéliques utilitaires. Les fameux « ça peut servir » dont on parlait à l'instant. Enfin bref, il y a plein de catégories. Il y a les bordéliques héritiers. Ceux qui ne se sentent pas de se débarrasser des objets que la génération précédente a accumulés. Il y en a
des tas
de variétés.
Alors, on a évidemment le sourire quand on aborde ce sujet, mais pourquoi ranger nos affaires n'est pas un geste si anodin que cela ?
Alors, parce que pour beaucoup de personnes, ranger, ça veut dire cacher, dissimuler l'objet. Et si on dissimule l'objet, on ne le voit plus, on ne sait plus qu'on l'a, et il disparaît. Donc, voilà. Ensuite, on confond tri et rangement. Ce qui sont pour moi deux opérations différentes. Oui. Pour moi, ranger, c'est simplement attribuer une place à un objet que j'ai décidé de garder. Le tri vient avant le rangement. Et en fait, le gros problème, il est là. C'est se débarrasser, enfin faire partir de chez soi. Oui. Pas se débarrasser parce que ça fait peur, mais faire partir de chez soi des objets qu'on ne va pas garder. Donc deux opérations différentes, tri, rangement.
Alors Valérie Guillard, est-ce qu'on accumule toujours de plus en plus ou dans l'histoire récente, dans l'histoire contemporaine, on s'aperçoit qu'on a beaucoup surconsommé et qu'on se calme un petit peu aujourd'hui?
Bah, je dirais, je pense que je vais scinder votre question en deux, en fait. La question de l'accumulation et la question, effectivement, de la consommation, de la surconsommation. Parce qu'en fait, on peut surconsommer et ne pas accumuler.
Bien sûr.
En fait, ce sont des flux de marchandises et des flux d'objets qui arrivent chez vous. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec les différentes plateformes, on peut faire circuler les objets. C'est-à-dire qu'on peut continuer à être dans la surconsommation tout en étant quand même dans une fluidité au niveau de ce que vous gardez. Donc là, j'aurais vraiment tendance à dire que la surconsommation, elle existe encore aujourd'hui, voire pour certains cas, Julia parlait des vêtements, sur certaines plateformes, effectivement, on vend encore plus nos vêtements et on les fait circuler. Donc là, c'est vraiment une question, oui, il y a toujours plus de surconsommation. Quant à la tendance à tout garder, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle.
Oui.
Ah oui, parce que effectivement, spontanément, on a encore tendance à accumuler les choses et à les garder, soit pour des raisons, comme l'a dit Laurence, affectives, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons utilitaires. Hein. C'est le tas de ça peut. Moi, j'ai interrogé beaucoup de gens qui appellent effectivement le tas de ça peut, sous-entendu ça peut toujours servir. Ou alors pour des raisons sociales, c'est-à-dire soit effectivement l'objet vous représente socialement, ou encore vous gardez l'objet pour vos enfants. Alors que vos enfants, surtout, ils ne veulent pas les avoir.
C'est ça.
Donc, on a vraiment tous ces cas de figure.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, Valérie Guillard, parce qu'il y a un texte qui revient dans un de vos livres, qui revient sur cette histoire de l'accumulation. Par exemple, au 19e, avoir beaucoup d'objets chez soi, c'était aussi un moyen d'exposer son aisance financière. Aujourd'hui, c'est le contraire, en fait. Les objets sont généralement cachés dans une cave, dans un grenier, et l'intérieur des classes sociales supérieures, je dirais, est plutôt épuré.
Oui, alors en fait, c'est vrai que les représentations de l'accumulation tendent à évoluer, de par effectivement la médiatisation quand même de ce sujet. Cependant, je pense que malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela, parce que aujourd'hui, si vous voulez effectivement faire un petit peu de do it yourself, c'est-à-dire de choses par vous-même, il faut aussi accumuler de la matière aussi.
Bien sûr.
Donc en fait, finalement, l'accumulation, on peut même se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on accumule. Est-ce qu'on accumule des objets? Est-ce qu'on accumule de la matière? Et je trouve que cette question est aussi importante à réfléchir. Mais effectivement, aujourd'hui, nous continuons quand même à avoir une tendance à l'accumulation. Mais par contre, comme vous le dites, cette accumulation, elle a changé dans les représentations, le sens de l'accumulation a changé dans les représentations des personnes.
Alors, il y a une chose qui semble ne pas avoir changé, c'est que effectivement, quand on demande aux gens ce qu'ils accumulent le plus chez eux, c'est souvent les vêtements qui arrivent en première position.
Oui.
Julia Faure, vous êtes avec votre marque Loom, une actrice du secteur de l'habillement, un secteur très polluant, on y reviendra. Mais vous avez trouvé la parade justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Loom ?
Alors, Loom, c'est une marque de vêtements et notre but, c'est que les gens achètent le moins de vêtements possible. Donc pour ça, on essaie de faire des vêtements que vous garderez le plus longtemps possible.
C'est ça, c'est l'obsolescence en fait vestimentaire quelque part.
Voilà, c'est lutter contre l'obsolescence qu'on dit programmée dans le textile. Sauf que dans le textile, bon, il y a effectivement une obsolescence programmée. Enfin, il y a une dégradation de la qualité depuis quelques années. Donc pour ça, pour essayer de lutter contre ça, on essaie de faire des vêtements de bonne qualité. Mais la vraie obsolescence programmée dans le textile, c'est une obsolescence programmée du désir. C'est-à-dire, on achète des vêtements non pas parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a plus dans notre placard, mais parce qu'il y a tout un système qui est mis en place pour nous faire désirer des nouveaux vêtements et pour nous permettre de les acheter.
Et alors vous, comment vous réagissez justement avec Loom? Qu'est-ce qui fait que on n'est pas tenté justement d'en acheter plus que ce qu'il ne faut?
Alors vous serez toujours tenté d'en acheter plus qu'il vous faut, parce qu'à partir du moment où vous avez un t-shirt sur votre une tache sur votre t-shirt blanc, vous aurez envie de le changer. Ouais. Alors que dans un monde plus sobre, il va falloir réenvisager tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait des vêtements qu'on essaye de faire durer le plus longtemps possible pour que vous n'ayez pas à en racheter parce qu'ils ont rétréci au lavage ou parce qu'ils sont troués au bout d'un port. On essaie de faire des vêtements qui soient intemporels, c'est-à-dire qui vont pas passer de mode d'ici à 1, 2, 5, 10 ans.
Oui.
Mais aussi, on essaye de lutter contre cette obsolescence programmée du désir. C'est-à-dire, on ne renouvelle pas nos collections. Enfin, voilà, il y a toujours chez nous un t-shirt blanc, un jean bleu, des chaussettes noires, pour pas que vous soyez tentés par la nouveauté. On ne fait pas de promotion, ni tous ces mécanismes qui jouent sur la bonne affaire et qui, en fait, font qu'on achète souvent des choses dont on n'en a pas besoin juste parce qu'on a vu un moins 40%. On a aussi renoncé à tout ce qui est dark pattern, ces manipulations
Et la publicité, notamment, du marketing, alors, tout ça?
C'est pire que ça. Bien sûr, on fait pas de publicité, on
n'a
pas d'influenceurs, on n'a pas de publi-reportage ou je sais pas quoi, mais les dark patterns, c'est encore différent, c'est toutes ces manipulations qui jouent sur vos biais cognitifs pour vous faire acheter des choses sans que vous y ayez réfléchi. Un peu comme une impulsion. Par exemple, quand vous allez sur un site d'un célèbre site de réservation d'hôtel, vous voyez en dessous plus que 5 en ligne, réservez maintenant cette période.
D'accord.
Tout ça, c'est des choses qui créent chez vous un sentiment d'urgence et qui vous font prendre des décisions d'achat presque irrationnelles, quoi.
Alors, comment réagit la psychologue que vous êtes, Laurence Anfal, quand vous entendez Julia? C'est des problématiques que vous abordez aussi avec les personnes qui viennent vous voir?
Oui, parce que les personnes qui sont bordéliques, ce serait un peu comme des personnes qui seraient en surpoids. Si vous avez beaucoup d'objets chez vous, c'est parce que vous êtes trop accueillant dans la façon de les faire venir chez vous et que vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Un peu comme si on mangeait tout le temps trop de gâteaux et qu'on ne faisait jamais de sport.
Oui.
Et effectivement, les personnes avec qui je travaille, pas toutes, sont extrêmement sensibles à ces fameux dark patterns dont parlait Julia. Le fameux « Oh mon Dieu, faut que je l'achète parce que sinon il n'y en aura plus ».
Oui, c'est ça.
Le fameux « Dans ma classe sociale, tout le monde a ça ». La représentation de la mère idéale ou de la femme parfaite, elle a forcément dit vernis à ongles et elle a forcément tel robot de cuisine acheté à prix d'or. Voilà.
Alors en vous en écoutant toutes les trois, on comprend bien que les mots sobriété, solutions concrètes et décroissance vont être les mots que nous allons prononcer dans la suite de cette émission. Mais on attend aussi vos témoignages. Êtes-vous du genre à accumuler ou au contraire avez-vous décidé de devenir minimaliste et de changer votre façon de consommer? Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous envoyer un mail ou même une note vocale. Il suffit de cliquer sur le bouton réagir sur la page de l'émission L'été comme jamais via l'application ou le site.
I won't settle for less. I'm convinced that once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in the tongue. That's been corrupting, no substance to be hidden from. Now we see rough forth from a dream. A stream underwater without a hops in the scene. Not the pacifier, but homie, the truly change. When you step at the heavens, you see the stars rearrange. So be we got to be.
Evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than soldiers lather. Don't fret, cause it ain't over yet. But by the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the darkness will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy, all the things that cause casualty, to your soul, let it go. Most of all, be home.
La soul lumineuse de Curtis Harding et son titre Hopeful sur France Inter. Je vous conseille le clip magnifique signé Lindsay Weatherspoon.
L'été comme jamais. Riva Rock sur France Inter.
Ranger, trier, c'est l'heure du grand ménage dans l'été comme jamais. Et la télévision s'est emparée de ce sujet, souvent avec humour, comme le prouve ce mix lustré par Juliette Medevielle et composé d'extraits des émissions C'est du propre, Marie Kondo, Homme Edit et les séries Friends, un gars, une fille est bloqué.
Il y a Géraldine et sa copine qui viennent ce soir.
Qui viennent où, à la baraque?
Ouais.
Putain, mais t'es con, quoi.
Ouais, pourquoi?
Quoi, pourquoi? C'est le bordel partout.
Putain, on va devoir ranger.
D'accord. Alors, pas de panique. On respire profondément.
Il va falloir jeter, trier, parce que là, on peut pas nettoyer.
On a 200 CD et aucun n'est dans le bon coffret.
Je pense qu'on va s'accorder un petit peu de temps pour remettre chaque CD dans le bon coffret.
Oui, mais si on fait ça, il faudrait peut-être trouver un ordre, disons alphabétiquement ou bien par genre.
Maintenant, vous allez faire du tri. Ne gardez que les vêtements qui vous rendent heureuse.
Ça, on garde. Ça aussi. Et ça, on s'en débarrasse.
Pourquoi ne pas mettre ici les vestes et les gros pulls, et puis les écharpes et les foulards plus légers là-dedans?
J'aime l'idée, super. Oh là là.
Oh là là, les filles, ça va être top.
Bon, Francis.
Oui.
Avant d'attaquer la montagne de vaisselle là qui nous attend, on va nettoyer votre évier.
Voilà.
Et on va le faire briller.
Alex, excuse-moi, tu peux me dire pourquoi il y a trois sortes de liquide de vaisselle là?
Oh, m'en parle pas, j'étais incapable de me décider.
Bah ouais. Mais...
écoute, il y en a un antibactérien, ça c'est spécial pour les mains, ouais. Et ça c'est sensation de printemps.
D'accord, prends lequel?
Bah, je sais pas.
Hop, et maintenant, de l'huile plus de l'huile de coude, et c'est reparti.
Valérie Guillard, Julia Faure et Laurence Unfalt, est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans ces extraits? Sauf bloquer la première la série dont on a écouté au tout début. Ah, il y a Laurence qui lève la main. Je vous écoute, Laurence.
Oui, alors je suis pas trop fan de l'assimilation bordel égale saleté.
Alors
c'est
d'accord,
pas vrai,
mais c'était pas ça ma remarque,
ah bon,
mais je suis d'accord avec vous. On est d'accord, bordel ne veut pas dire saleté.
Ah, c'était pas ça la remarque, donc je passe la parole.
Julia, vous avez une idée?
C'est que des femmes.
C'est que des femmes, exactement, et notamment quand il s'agit de donner des conseils. Est-ce que Valérie Guillard, ça vous choque d'entendre que des femmes quand il s'agit de parler de tri, de rangement dans nos placards? On a perdu.
Oui.
Ah non, vous êtes là, pardon,
non,
Valérie.
En fait. voilà. En fait, oui, parce que quelque part, effectivement, là encore, c'est renforcer des représentations, puisque en effet, voilà, la femme, elle a plus de vêtements, la femme, elle a plus de maquillage, etc. Et puis surtout, la femme, elle en parle, elle verbalise en fait ce comportement. Et quelque part également, j'ai envie de dire non, dans la mesure où la femme, elle reste. Alors, j'espère que je ne choquerai personne, mais elle reste encore celle majoritairement qui s'occupe des enfants, des vêtements des enfants, des jouets, qui va ranger effectivement dans la cellule familiale, qui va prendre du temps pour remettre en ordre, pour faire les petits baluchons, vous savez, pour porter aux associations, oui. Voire éventuellement pour vendre sur les sites. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle, en effet, on renforce les représentations, mais pour autant, ça reste encore, voilà, la femme reste encore celle qui, dans le ménage, a un nombre d'heures assez conséquent consacré à ce type de tâches.
Oui, exactement. Alors on est en ligne avec Laurence qui vient de nous appeler sur France Inter. Bonjour Laurence. Est-ce qu'elle nous entend, Laurence ? Et c'est Elisabeth, pardon. Bonjour Elisabeth. Si je me trompe de prénom, vous pouvez pas m'entendre, évidemment. Excusez-moi,
je
Elisabeth.
Je vous entendais, mais je pensais que quelqu'un d'autre.
Mais non, non, c'est bien vous que je voulais avoir. Elisabeth, vous nous avez appelé. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je crois que vous avez besoin de conseils aussi.
Bah, des conseils, oui, je pense que je pourrais en recevoir de multiples. En fait, ce qui m'arrive, bien, c'est ce qui arrive à pas mal de gens. J'ai entendu le début de votre émission. Voilà, j'ai beaucoup de... Je suis sentimentale, je suis sûrement bordélique aussi. J'ai eu beaucoup de difficultés à le devenir parce que je pense que j'étais... Avant, quand j'étais très jeune, j'avais beaucoup de mal à faire du bazar, entre guillemets.
Ah, c'est marrant, ouais.
Ah, oui, c'est rigolo, hein, oui.
Non, alors je dis c'est marrant, pardon, excusez-moi, c'était pas le terme, c'est marrant. Mais c'est parce que souvent on dit que les ados sont bordéliques et qu'après, en vieillissant, on devient un peu presque maniaque. Et vous avez fait le chemin inverse, en fait, c'est ça ?
J'ai un petit peu travaillé là-dessus quand même, mais j'ai le souvenir très précis de mes 15-16 ans, où j'avais quelques disques, j'allais dire CD, quelques disques 45 tours ou autres, que j'essayais parfois de mettre un petit peu en désordre pour donner un air jeune à ma chambre, et en fait, j'y arrivais pas. Ça finissait toujours par une pile ou voilà, enfin bon, et maintenant j'y arrive probablement trop bien parce que je fais toujours des piles mais elles sont plus ou moins bien rangées et surtout bien au bout de pas mal d'années j'ai accumulé énormément. Voilà. Enfin énormément. Bah c'est la vie aussi qui nous passe entre les mains, les cartons de déménagement qu'on ne vide pas mais que si on vide on retrouve plein de choses et du coup une seule caisse prend des heures.
Mais enfin, alors, voilà. Vous n'êtes pas seule dans ce cas-là parce que Benoît nous a aussi écrit en nous posant cette question, je m'adresse à vous Laurence Van Falt, est-ce qu'en vieillissant on n'aurait pas tendance à ne plus savoir trier ni jeter ?
Oui, en fait, ça pourrait devenir de plus en plus dur à cause de ce qu'Elisabeth évoquait. On ouvre un carton et il y a toute une partie de notre vie qui ressurgit avec ces objets. Et du coup, ça leur redonne de la valeur. Et c'est juste, et plus on avance en âge, et plus c'est dur.
Julia Faure, on a entendu dans notre petit montage son Marie Kondo, qui est une star nippone du rangement, et quand je dis star, j'exagère pas, son livre La magie du rangement s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, elle a des millions de fans sur les réseaux sociaux, sa propre émission sur Netflix, une boutique en ligne, enfin voilà. Est-ce que vous comprenez ce genre de phénomène ?
Ah ouais, bah c'est, enfin, dans une société où justement, dans une société de l'accumulation, je sais pas si il y a 50 ans ça aurait eu beaucoup de sens d'avoir ce genre d'émission, mais on est dans une société de l'accumulation et du coup, c'est vrai que se libérer des choses, ça libère l'esprit quoi. Et c'est vrai qu'on achète et qu'on produit bien trop d'objets pour un monde écologiquement soutenable. Après, je suis pas sûre que la méthode Kondo n'est pas une solution au problème. Enfin, si on parle du problème de surconsommation et de surproduction, la méthode Kondo n'est pas une solution. C'est déjà quelque chose d'un peu. C'est assez privilégié en fait de pouvoir se débarrasser de choses. Enfin, moi, je me dis.
Bon, d'accord.
Moi, j'ai pas d'enfants, donc je peux vivre avec peu de choses. Mais si j'avais des enfants qui grandissent, j'ai besoin de choses pour les occuper, pour les transporter. Enfin, je vois ma sœur tout le matériel dont elle a besoin pour s'occuper de ma nièce. C'est bien sûr beaucoup. Et c'est aussi possible de se débarrasser beaucoup de choses quand on a externalisé beaucoup de choses qu'on fait avant. Bien sûr qu'on peut avoir moins de vaisselle si on se fait livrer la nourriture et pas d'aspirateur s'il y a quelqu'un qui veut en faire le ménage chez vous.
Oui, c'est pour les privilégiés, on est d'accord.
Ouais, et on s'en est rendu compte
pendant
le confinement. C'est Titu Lecoq qui avait fait une newsletter et qui expliquait qu'elle était bien contente de ne pas avoir jeté plein de choses pour pouvoir amuser ses gosses et faire du sport sur son tapis de sol qu'elle n'avait pas acheté.
Valérie Guillard, vous avez un regard plutôt positif sur les conseils de rangement, ce qu'on appelle en anglais, il y a ce terme de home organizing, dont pourrait se rapprocher Marie Kondo. En fait, vous pensez que ça peut donner de bons conseils, et donc de consommer moins, et donc de gaspiller moins?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai vraiment un regard très positif sur le métier du home organizer, dans le sens où, en fait, ces personnes, ces professionnels, vous font prendre conscience des relations que vous nouez aux objets. Donc, en fait, il s'agit effectivement de s'arrêter, j'ai presque envie de dire, Laurence le dirait mieux que moi, mais de s'arrêter devant presque chaque objet et de se poser la question de savoir qu'est-ce que cet objet, finalement, il apporte, pourquoi il est là, est-ce que j'en ai besoin, mais est-ce que, finalement, j'en ai eu besoin, dans quelle mesure, en effet, voilà, je vais m'en servir ou pas. Et je trouve que, vraiment, cette prise de conscience, il est difficile, parfois, de l'avoir seule.
Oui.
Et une aide vraiment ciblée est vraiment, je pense, très utile. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut nous réapprendre à consommer.
Oui, c'est
parce
ça.
Que je pense qu'on a perdu un peu, on s'est un peu perdu dans la surconsommation. On nous apprend pas à consommer. Alors c'est peut-être choquant, hein, parce qu'on dit oui, enfin, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Mais en fait, on doit juste quand même apprendre à définir nos besoins. Et là, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. De quoi j'ai besoin, c'est pas de quoi, qu'est-ce que je désire, de quoi j'ai envie, c'est de quoi j'ai fondamentalement besoin. Et la sobriété, puisque effectivement on l'a évoqué, ou Julia l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment cela. Et je pense que le home organizer va vraiment se focaliser, me semble-t-il, sur le besoin. Oui, mais pourquoi vous en avez besoin? À quoi ça sert? À quoi ça vous sert? Alors, ça peut effectivement être un besoin vraiment plutôt sentimental. Hein. Voilà, c'est mon grand-père qui me l'a donné, et ça, voilà. Oui, peut-être qu'il a effectivement toute raison d'être ici. Mais effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment ce regard très positif, quelles que soient finalement les personnes, sur le home organizer. Je pense que c'est une vraie aide. C'est une vraie aide pour une sobriété.
Et pour
vraiment réapprendre à consommer.
Oui, et ce que j'entends dans votre message aussi, Valérie Guillard, c'est de dire que notre rapport à l'objet a été totalement transformé. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément dans la possession aujourd'hui, mais plutôt dans l'usage de l'objet. C'est ce qu'on recherche avec toutes les économies collaboratives qui se mettent en place, où on partage un peu plus, on prête, on loue plutôt que d'acheter. C'est ça aussi, on a changé notre rapport à l'objet.
Oui, alors ça reste encore quand même mineur. Hein.
Oui, malheureusement, on est bien d'accord. Oui.
Voilà, parce que qui aujourd'hui loue ses vêtements, qui loue ou qui se prête une tondeuse, etc. C'est que ça peut être une pratique qui est effectuée. Il n'empêche que ça reste quand même sur l'ensemble d'un territoire, c'est relativement faible. Mais n'empêche que c'est quand même dans nos consciences. Voilà, ça veut dire que ça existe, ça veut dire que certaines personnes effectivement s'adonnent à ces pratiques, et on peut espérer effectivement que ça va se généraliser. Mais là encore, je pense qu'il faut. Je me permets juste une petite précision, c'est qu'il faut vraiment, je pense, bien scinder ce qui relève vraiment du besoin et ce qui relève de la manière de satisfaire son besoin. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on peut vous connaissez une plateforme effectivement très très connue pour les vêtements où
oui,
on peut vendre beaucoup de vêtements, et effectivement là cette plateforme elle s'inscrit totalement dans l'économie circulaire, dans le sens où les vêtements ne sont plus jetés, donc on peut vraiment s'en satisfaire, et pour autant cela nous empêche de prendre conscience de notre
bien
consommation
sûr.
Véritable, parce que c'est ce que je disais Julia, en fait. Est-ce que j'ai besoin d'avoir quatre pulls noirs qui se ressemblent, en fait, enfin qui sont même les mêmes?
Julia Faure.
Ouais, et je voulais rebondir, en fait, on donne l'impression que c'est presque un problème individuel, quoi, puisqu'on accumule plein d'objets.
C'est exactement la question que j'allais vous poser.
Pourquoi finalement on accumule autant d'objets? Parce que en fait ça coûte pas cher, en fait. Parce qu'il y a globalement tous ces objets-là, on les produit plus localement, on les produit dans des pays où les conditions de travail sont misérables, où on ne protège pas l'environnement, et ça fait que, du coup, ils sont pas chers du tout, et on peut accumuler. C'est pour ça aussi que tous les services de location et d'échange, etc., ou d'économie collaborative marchent marginalement, en fait. C'est pour
bien
ça qu'il n'y a pas de location de vêtements. Attendez, ça coûte 5 euros d'acheter un t-shirt. Pourquoi je vais en louer? Je sais que ça va me coûter plus cher. Donc, il y a la question, on peut résoudre individuellement ces choses-là, hein, en apprenant à mieux reconnaître les incitations à consommer, en mieux organisant sa maison et tout. Mais si on veut résoudre le problème en tant que société, il faut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire Il faut arrêter d'aller produire nos biens à l'autre bout du monde, exploitant des gens globalement. Et il faut stopper toute cette industrie qui met une énergie folle à nous faire désirer des choses dont on n'a pas besoin.
Alors d'ailleurs, dans un instant, j'aimerais qu'on revienne sur une tribune que vous avez signée en ce mois de juillet, Julia Faure, pour essayer de trouver des solutions concrètes justement à cette problématique-là. On vous pose aussi la question à vous, est-ce que vous avez décidé de changer votre façon de vous alléger, de ranger vos placards et de consommer surtout? Je vous rappelle le numéro du standard au 01 45 24 7000. Et puis vous pouvez également nous laisser un mail ou une note vocale sur le site ou l'application de France Inter.
Vaisselle de tout à l'heure en fait.
Ah, on est en train de papoter dans le studio, voilà, ça fait un bien fou quand même de réentendre Lerita Mitsuko avec cette chanson de 1986, c'est comme ça.
France Inter, l'été comme jamais.
Mais oui, ça fait discuter les placards et le besoin de ranger. On parle de tout ça et on parle aussi de notre façon de consommer nos objets du quotidien. On a reçu des mots très mignons. Par exemple, Chloé, on parlait de la valeur sentimentale de ces objets qu'on a dans notre quotidien. Chloé nous dit « Je ne peux pas jeter les petits mots laissés sur le coin de la table le matin par mes filles et mon mari, où il est indiqué « Bonne journée et bisous, achète du pain, dors bien ». Évidemment, si on commence à accumuler tout ça, on comprend bien qu'on peut être vite débordé. Et Emmanuel nous dit « Ranger, vider, se départir de l'inutile, c'est faire aussi du tri sur soi-même pour se libérer d'objets qui nous entravent. Cela peut reporter un changement de vie. Si je déménage, il va falloir que j'emporte tout cela. C'est aussi une démarche solidaire, donner à ceux qui en ont besoin, protectrice de l'environnement pour que le même objet ne soit pas fabriqué neuf pour une nouvelle personne, une économie plus juste car tous les prix deviennent raisonnables, les objets ne sont plus fabriqués par des employés exploités. » Et je pense que ce message, il doit vous faire réagir, Julia Faure, parce que c'était le 7 juillet dernier, vous avez signé avec 150 responsables d'entreprises du textile français une tribune qui est parue dans Le Monde, un texte avec des propositions très concrètes pour rendre plus vertueux ce secteur d'activité qu'est l'industrie textile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces mesures que vous prenez ?
Oui, globalement, comme je le disais tout à l'heure, comment ça se fait qu'on achète autant de vêtements et d'objets en général ? C'est parce que le prix des vêtements a vachement diminué depuis les années 80-90, c'est-à-dire toute la délocalisation pour le textile, de l'industrie textile en Asie. Donc ça veut dire que voilà, maintenant, le prix qu'on ne paye pas, bien sûr, c'est les ouvrières du textile et c'est l'environnement qui paye les pots cassés. Et du coup, ça a deux conséquences assez terribles. C'est-à-dire que, par exemple, pour produire un pull au Portugal, ça coûte 30 euros. Et pour faire exactement le même au Bangladesh, ça coûte 3 euros. Ça veut dire que si vous êtes une entreprise qui décide de produire mal, qui décide de produire au Bangladesh où on protège mal les gens et les environnements, vous avez un avantage compétitif. Ça s'appelle la primovis. Donc, c'est-à-dire, structurellement, dans notre économie de marché, aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vous avez intérêt à faire mal. Donc nous, on demande une régulation pour supprimer cette primovis, qui permettra du coup de favoriser les entreprises vertueuses, et surtout qui permettra de diminuer le volume de vêtements qui est mis sur le marché. Parce qu'en fait, cette accumulation, elle est extrêmement problématique, parce qu'elle génère directement des effets de serre, en fait, des gaz à effet de serre. À chaque fois qu'on produit un t-shirt, on pollue. À chaque fois qu'on produit un t-shirt, on brûle de l'énergie. À chaque fois qu'on produit un t-shirt, on émet des gaz à effet de serre. Or, vous êtes sans doute au courant qu'on a un petit problème de réchauffement climatique aujourd'hui et qu'on doit drastiquement réduire les gaz à effet de serre. Dans le textile, c'est divisé par 3 d'ici à 2050, notre objectif, si on veut respecter les accords de Paris.
Ça, c'est les objectifs que vous êtes, que vous avez envie d'atteindre et que vous indiquez aussi dans cette tribune avec les autres acteurs du secteur.
Alors qu'on a envie d'atteindre, enfin, c'est les objectifs de l'accord de Paris. Hein.
Oui.
C'est quand même, enfin, et c'est globalement pour avoir un monde vivable et qui va quand même être extrêmement perturbé par rapport à aujourd'hui. Hein.
Bien sûr.
C'est juste nos objectifs de survie qu'on devrait tout savoir, quoi. Divisé par 3, les émissions de gaz à effet de serre du textile d'ici à 2050, ça veut dire globalement, divisé par 3, le volume de vêtements neufs produits et vendus chaque année.
Et vous avez l'impression que c'est une utopie ou qu'on peut y arriver ? J'espère, évidemment, vous allez me dire qu'on peut y arriver, parce que sinon vous feriez pas du lobbying comme ça. Mais c'est vrai que quand on entend ces messages qui sont récurrents quand même, on a l'impression qu'on est qu'il y a un discours et puis la réalité des faits et les gouvernements qui ne prennent pas réellement tout ça en cause. On parlait de tous ces petits gestes du quotidien qu'on a envie de faire pour que ça aille mieux, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que ces gestes individuels peuvent suffire.
Ça suffit pas. Et c'est même une stratégie, hein, encore une fois, de cette industrie, de nous faire croire que la responsabilité est sur le consommateur et c'est vous qui devez prendre des douches courtes. Alors que, globalement, qui pollue, qui produit les objets, c'est les entreprises. Et pourquoi les entreprises vont produire à l'autre bout du monde des volumes de vêtements énormes sans aucune limite ? C'est parce qu'il n'y a pas de régulation qui les empêche de faire mal. Il n'y a pas de régulation qui empêche la primovis. Il n'y a pas la régulation qui empêche que des vêtements sur le territoire français soient issus du travail esclave des Ouïghours. Enfin, c'est quand même, on marche sur la tête. Donc, bien sûr qu'il y a une responsabilité du consommateur de faire sa part. Bien sûr que les entreprises aussi doivent faire leur part. Mais il faut une régulation. Et il faut des régulations hyper fortes. Et là, c'est pour ça que nous, le mouvement en mode climat qu'on a monté avec d'autres acteurs du textile, on demande cette régulation parce qu'on se rend compte que ça fait 30 ans qu'on compte sur le consommateur ou sur, je sais pas, le réveil des entreprises qui tout à coup vont abandonner leur quête du profit pour faire les choses bien. On voit bien que ça ne marche pas. Au contraire, ça empire les choses. Depuis 30 ans, alors qu'on a vu l'essor de marques extrêmement éthiques, Patagonia, VGA 1083, depuis 30 ans, les gaz à effet de serre du secteur textile n'ont pas cessé d'augmenter. Donc, il faut des lois.
Valérie Guillard, j'imagine que vous approuvez le message de Julia Faure.
Oui, bien sûr, bien entendu.
Merci Valérie.
Oui, tout à fait. j'ai envie de dire, je vais aussi moi du côté du consommateur parce que voilà, moi c'est mon angle d'analyse. Et évidemment, je suis totalement d'accord avec Julia. Et je rajouterais même que le marché nous a dépouillé de nos compétences parce qu'aujourd'hui, qui sait reconnaître un bon coton d'un mauvais coton ou d'un textile ou de différents types de matières. Je pense que l'apprentissage, et peut-être le fait d'apprendre ou de réapprendre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'une matière qui ne pollue pas. Où est-ce que sont produits les matières? Quelle est la vertu d'une matière? Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'un pull pour ne pas transpirer? J'ai besoin d'un pull pour vraiment avoir chaud l'hiver, donc en laine, etc., etc. Tout cela, en fait, est-ce que le consommateur, il sait?
Oui, il y a un travail d'éducation.
Mais oui, exactement, c'est l'éducation du consommateur. Il y a au moins 50 ans qu'on est dépouillé de nos compétences. On ne sait plus ce qu'est une matière, on ne sait plus ce qu'est un légume. Alors, je caricature, évidemment. Mais je pense qu'en allant, effectivement, dans le sens de Julia, que nous avons besoin, en fait, de ces compétences. Pour effectivement approuver, j'ai envie de dire, les vêtements vêtements de bonne qualité et surtout accepter de payer cette prime à la qualité. Oui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, Julia dit effectivement, elle a tout à fait raison de dire qu'il y a des t-shirts à 3 €. Et évidemment, quand on achète un t-shirt à 3 €, on n'a pas envie d'acheter un t-shirt à 40 €.
Bien
parce
sûr.
Que, en fait, on ne compare pas ce qui est comparable. Et aujourd'hui, la mode éthique, qui permet d'avoir quand même des très belles matières et durables, eh bien, le consommateur, il est un petit peu... Déjà, il dit, ah, je vais peut-être me faire avoir. Parce qu'en fait, il ne connaît pas la matière. Et en fait, surtout, il voit pas à long terme. Et donc, je pense que là, il y a vraiment une éducation dans la façon de consommer, notamment les vêtements, effectivement, qu'il est nécessaire de faire, je pense, au titre individuel.
Alors, à titre individuel aussi, il y a une émission sur France 5 qui a pris très au sérieux ce sujet de la décroissance et du minimalisme, même si c'est traité avec un immense sourire. Il s'agit de l'émission Nus et culottés. Nance et Moots voyagent en partant sans rien, pas même un vêtement au départ. Ils sont donc nus et sacrément culottés.
Bonjour. Excusez-moi, on est deux plagistes égarés là, et on est à la recherche d'un vieux t-shirt, n'importe quoi.
Ou d'un vieux pantalon, de quelque chose que vous n'allez pas utiliser, qui...
Vous êtes fait braquer, vous
Non, on est parti, c'est ça un peu la folie du truc, c'est qu'on est parti tout nu, sans rien, sans argent, et l'idée c'est d'aller jusqu'à Lille pour trouver un tandem à la braderie qui se tient dans quelques jours, pour aller pédaler en Hollande.
Oh là là.
Super, putain, c'est cool.
Encore une fois, on reçoit plus que ce qu'on demande. On vient de se faire habiller pour l'été et pour l'hiver, là.
C'est clair, encore mieux qu'une friperie.
Les gens, ils vont pas nous croire quand on va leur dire qu'on est parti tout nu.
Laurent Sanfalt, est-ce que ce genre d'émission peut aider à prendre conscience de notre surconsommation et de notre façon dont on peut consommer autrement ?
Ah oui, définitivement. Surtout que c'est amusant. C'est des défis, c'est des jeunes. Oui, c'est une très bonne, très bonne idée.
Et alors, vous me disiez hors micro qu'on a cette difficulté. C'est celle de la décision. C'est-à-dire que quand on est devant un acte d'achat, on ne sait pas comment faire. C'est ça qui est aussi problématique et qui fait qu'on accumule.
Oui. Alors, il y a plusieurs niveaux. Quand on est soumis, à différentes tentations, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'on va comme on y a passé du temps, on va se dire, là, cette fois, faut que je conclue. Allez, j'achète le premier truc venu. C'est la première façon de prendre des décisions ou d'avoir du mal à en prendre, en réalité. Ou alors, on est confronté à deux t-shirts, un vert, un bleu. Et comme on n'arrive pas à se décider, on prend les deux. Et on a la même chose quand il s'agit de se séparer de ces objets une fois qu'on est dans l'idée de s'en séparer. Je décide, j'y vais, j'y vais pas, je donne, je vends, je recycle. Et toutes ces prises de décision, en fait, c'est très fatigant. Et du coup, on les prend pas. C'est ce qu'on appelle la procrastination décisionnelle.
Procrastination décisionnelle.
On repousse à plus tard le fait de prendre la décision de se séparer de quelque chose, en l'occurrence.
Je suis d'accord avec vous. J'ai l'impression que je procrastine beaucoup. avec les vêtements, on parle beaucoup des vêtements parce que c'est vrai que c'est la première chose qu'on accumule dans nos placards. Mais quand vous êtes devant, face à une immensité de papiers administratifs que vous n'avez pas réglé, par exemple, Laurence.
Ah oui, je vois.
Est-ce qu'on peut procrastiner aussi hein ?
Mais bien sûr, on fait que ça.
on fait que ça, mais vous comprenez bien que la solution, elle est plus la même, là, par rapport aux vêtements.
Alors, non, c'est plus la même. Ça signifie qu'en fait, vous fonctionnez sur deux modes. Un mode urgent, il faut que je fasse, sinon, il y a un problème. Et un mode, je verrai plus tard.
Oui, et beaucoup de modes urgents, on le met aussi dans le on verra plus tard.
Là, ça devient dangereux, parce que vous allez être soumise à des pénalités, à des problèmes divers et variés, que je veux pas vous prédire ça, Eva.
Mais c'est comme ça que... Non, mais alors, on le dit avec le sourire, mais c'est aussi pour ça que vous avez des gens qui viennent vous voir.
Bien sûr.
Parce qu'ils se retrouvent dans des situations extrêmement embarrassantes.
Bien sûr.
Pour pas dire dramatiques, quand on ne règle pas, justement, ce genre de papier administratif.
Oui, tout à fait. Le cas qui me vient en tête, quand vous me parlez de ça, c'est la succession. Une succession.
Oui.
Si on remet pas la main sur les dossiers d'assurance vie, sur les titres de propriété, parce que on a fichu le bazar pendant des années, voire des décennies, on est mal parti.
Laurence, à qui je viens de parler, Valérie Guillard, pardon, je m'en sors plus. Valérie Guillard, est-ce que vous croyez à la sobriété joyeuse ou heureuse en tout cas ?
Oui, je crois effectivement à la sobriété, et en tout cas, elle doit être vue que heureuse et joyeuse, et non pas comme une punition, un renoncement ou quelque chose de très négatif. Je pense qu'effectivement, j'ai espoir. En fait, on va dire, bien sûr, bien entendu, j'y crois et j'ai espoir, parce qu'en fait, la sobriété, c'est vraiment réapprendre à consommer, réapprendre à analyser ses besoins, à ne plus être dans l'éparpillement, dans la vitesse, dans entre guillemets, excusez-moi l'expression, dans le grand n'importe quoi. Et c'est se poser des questions. C'est se poser des questions sur ce qu'on fait, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Et en fait, c'est vraiment, moi je pense qu'il y a vraiment une complémentarité par rapport à ce que disait Julia, entre évidemment les entreprises qui elles-mêmes, effectivement, doivent aussi prendre conscience de ce qu'elles font, et je pense qu'elles en ont parfaitement conscience, mais changer effectivement des modèles, et le consommateur qui lui aussi doit prendre conscience, et qui a le porte-monnaie, c'est aussi quand même le consommateur. Donc oui, la sobriété, bien entendu, je crois à ce concept. Je pense que c'est vraiment le concept qui nous permettra de trouver du sens même à mieux consommer et à reconsommer effectivement, ou du moins à consommer des choses qui ont de la qualité et à substituer ce mauvais schéma de la quantité versus la qualité. Oui, oui. Ça, on a ce schéma depuis très longtemps et aujourd'hui, c'est de toute façon, j'achète un t-shirt à 3 euros, ça va me permettre d'économiser 25 euros et avec mes 25 euros, je vais acheter d'autres choses qui seront de mauvaise qualité ou qui satisfont aucun besoin. Et effectivement, ce schéma-là, je pense qu'il est vraiment urgent cette fois-ci de s'attaquer de front à ce schéma et de s'analyser un petit peu entre guillemets soi-même et à se dire mais finalement ça n'a pas de sens de ce que je fais. Ce que je fais n'a pas de sens. Et la sobriété c'est vraiment retrouver du sens et c'est en rien quelque chose de négatif, de renoncement. Alors c'est vrai que la sobriété heureuse bien entendu ça fait référence aux travaux de Pierre Rabhi, l'agroécologie, mais au-delà de ça un mode de vie évidemment beaucoup plus vertueux. Tout à fait. Donc oui bien
alors,
sûr j'y crois.
De la qualité et pas de la quantité. Complètement fou, signé Jacques et intitulé « Vous » sur France Inter. Il est temps de remercier nos trois invités du jour. Valérie Guillard, je recommande deux de vos ouvrages édités chez Deux Book Éditions, « Du gaspillage à la sobriété, avoir moins et vivre mieux » avec un point d'interrogation et « Boulimie d'objets, l'être et l'avoir dans notre société ». Merci Valérie. Puis merci Julia Faure. Toutes les informations concernant votre marque de vêtements sont à retrouver sur loom.fr avec deux O et en modeclimat.fr. Laurence Anfalt, je vous remercie pour tous ces conseils et je renvoie à votre livre « Se simplifier la vie », c'est chez Erol Éditions. Merci à vous trois. Je vous propose de prolonger ce sujet avec avec un petit conseil du jour. Si vous souhaitez vider votre bibliothèque, l'association Recycle Livre se charge de donner une seconde vie à vos ouvrages. Les membres de l'association viennent chez vous collecter gratuitement vos livres, mais aussi vos DVD, CD, vinyles, des biens culturels qui sont revendus et dont les bénéfices permettent de financer des programmes d'action de lutte contre l'illettrisme ou la préservation de nos ressources. Toutes les infos sont sur le site recyclelivre.com. Un grand merci à l'équipe de l'été comme jamais. Juliette Medevielle à la réalisation, Florian Dorimini à la technique, Margot Page, Anna Massardi et Marie Aubert à la préparation, Muriel Pérez à la programmation musicale. Demain à 9h sur France Inter, je vous propose un bain de foule. Comment comprendre nos comportements dans une foule? Mais d'ailleurs, a-t-on encore envie d'être entouré de milliers de personnes?